Deuxième partie, la prison. Chapitre 1er. Ce fut à ce moment que, pour comble de malheur, je tombai amoureux. Je n'avais pas prévu qu'à mes craintes s'en ajouterait une autre plus grande encore, celle de perdre un être qu'on aime. Jusqu'à présent, je n'avais rien eu à perdre. Je luttais pour ma vie, c'était tout, et voilà que je m'apercevais avec stupeur que je tenais encore plus à la vie qu'auparavant. J'avais cru trouver un apaisement, une sorte de détachement, et je me trouvais aux prises avec un souci que je n'avais pas soupçonné, celui de ne rien laisser paraître des petites infirmités humaines. J'avais toujours peur de ne pas être assez propre. J'étais obligé de me regarder continuellement dans des glaces. Il m'arrivait, après des heures de préparatifs, je manquais de tout, de crème, de pâte dentifrice, de linge propre, au moment même de sortir, de me rechanger encore. Mes cheveux, mes ongles, mes dents, tout en moi était l'objet d'une surveillance continuelle. La chambre où je vivais, qui m'avait paru si sûre, était devenue tout à coup à mes yeux impossible. Chaque fois que je quittais Guylaine, je tremblais à la pensée qu'il m'arrivât quelque chose qui m'empêcherait de la revoir. Toutes sortes d'idées sur la fatalité se succédaient dans mon esprit. Si j'étais resté une minute de plus, si j'avais pris telle rue au lieu de telle autre, ce malheur ne serait pas arrivé, etc. Un jour, l'idée de faire un pacte avec elle me vint, idée qui devait selon moi m'apporter un grand soulagement. Il s'agissait de convenir que nous ne nous reverrions pas avant la fin de la guerre et de faire le serment de rester fidèles l'un à l'autre jusque-là, mais je n'osais jamais lui en parler. Ce qui me manquait justement le plus, c'était un ami à qui j'aurais pu tout dire, en qui j'aurais pu me fier, qui m'eût rendu confiance quand je croyais tout perdu. J'avais remarqué que dans les moments de grand danger, on a souvent besoin de quelqu'un qui soit là pour nous rendre des services insignifiants. Depuis mon évasion, partout où je m'étais trouvé, je m'étais inconsciemment demandé, en dévisageant les voisins, les concierges, les petits fournisseurs, s'il y avait parmi eux une de ces personnes à qui j'aurais pu dire à l'oreille, au moment où la police serait venue me chercher, « Dites que vous ne savez pas où est la clé, prenez la lettre qui est sur ma table, téléphonez tout à l'heure à mon père », et qu'il l'eût fait. Or, je m'étais rendu compte que pour rendre ces minuscules services, il fallait que les gens fussent de très grands amis. Quand je rentrais chez moi après avoir passé une ou plusieurs heures avec Guylaine, j'avais l'impression qu'un temps infini s'était écoulé et que des événements graves s'étaient produits en mon absence. Je réfléchissais aux mille gentillesses que j'avais faites, comme par exemple d'aller retenir des places, faire une démarche, aller pour Guylaine à la poste, à la mairie, comme tout cela me semblait imprudent à présent. Je trouvais même que ce qui fait le plus grand plaisir, inspirer de l'admiration, plaire autant que l'on nous plaît, enfin tous ces échanges, car c'est un échange, ce « je t'aime si tu m'aimes », eh bien, je les trouvais extraordinairement frivoles, dans une situation aussi dangereuse que la mienne. Les histoires qui arrivaient à Guylaine étaient typiquement celles qui arrivent aux gens qui ne savent pas se défendre. Des histoires dans le genre de celle-ci. Elle prêtait de l'argent à une amie qui disait ensuite qu'elle ne lui avait rien prêté. Elle ne me les racontait pas car elle s'était aperçue que cela me mettait hors de moi. Chaque fois que je la revoyais, je fixais mon regard dans le sien pour tâcher de deviner s'il lui était arrivé quelque chose. Elle me racontait alors ses petites peines. Mais au bout de quelques semaines, comme je ne pouvais jamais rien faire pour l'aider, je lui demandais de ne plus rien me dire. Je préférais ne pas savoir. Un jour, cependant, je ne pus m'empêcher d'intervenir. Il s'agissait justement d'une de ces histoires d'argent. J'allais trouver l'ami de Guylaine. Il ne m'était pas venu un instant à l'esprit que je pusse courir un danger. Or, cette amie n'était pas du tout la petite jeune fille intimidée que j'avais crue. On eût dit qu'elle savait qu'elle n'avait rien à craindre de moi. Je venais à peine de prendre la défense de Guylaine qu'elle éleva la voix. Je me fâchais, pensant toujours n'avoir rien à craindre. Il se produisit alors un événement extraordinaire. Tout à coup, cette femme prétendit que je l'avais outragée. Sans me rendre compte nettement de ce qu'elle voulait dire, mais sentant confusément que cela pouvait être grave, je battis en retraite. Elle criait de plus en plus. Elle disait que cela ne se passerait pas comme ça, que si Guylaine avait un ami, elle n'en avait un aussi, qu'il était des paroles qu'une honnête femme ne pouvait entendre, etc. Depuis mon évasion, rien ne me causait une plus grande frayeur que l'affirmation que j'avais prononcée une parole dont la portée dépassait ma pensée. Il m'apparaissait que des gens allaient être appelés à donner leur avis. La seule perspective d'un arbitrage me fit trembler. Je voyais déjà ces arbitres faisant appel à d'autres arbitres. Le conflit ne pouvant se régler, on montait de plus en plus haut jusqu'à la police. À ce moment, il ne s'agissait plus du conflit lui-même, mais de ceux qui en étaient les acteurs. Avant de juger, la police voulait savoir à qui elle avait affaire. Je craignais de plus en plus qu'une autre histoire ne se produisît. Je savais bien que Guylaine m'était dévouée corps et âme, mais je craignais qu'il n'arrivât quelque chose d'imprévisible. Aussi j'attachais une importance énorme à l'exactitude de nos rendez-vous. Le moindre retard me plongeait dans des transes. Je quittais moi-même ma chambre 2 heures à l'avance, pour être certain qu'au dernier moment rien ne m'empêchât de sortir. Je craignais aussi qu'on ne cherchât à m'atteindre par elle. Chaque fois que nous nous quittions, nous avions l'impression qu'il pourrait nous arriver de ne plus nous revoir jamais. C'est pourquoi nous avions tant de mal à nous séparer et que pour acheter un timbre, nous entrions ensemble au bureau de poste. Rien n'est plus difficile que de faire à un être aimé tout ce que nous voudrions pour sa sécurité. Une fois qu'elle était partie, je tremblais qu'elle ne vît pas un danger que moi, si j'avais été là, j'aurais vu. Je me disais que si on l'arrêtait, elle ne saurait pas se défendre, qu'elle s'embrouillerait dans ce qu'elle devait dire, qu'elle se trouvait en contradiction avec ce que je dirais ensuite. Elle tomberait dans tous les pièges. Les précautions que ces dangers problématiques m'obligeaient à prendre me faisaient honte. Elle me montrait que je n'aimais peut-être pas Guylaine autant que je le croyais. Je ne lui avais pas dit où j'habitais. Elle avait beau comprendre que ce n'était pas par méfiance mais par peur de sa faiblesse, elle avait beau ne pas m'en tenir rigueur, il y avait quelque chose d'assez bas dans ses précautions. Il était trop visible que je ne voulais pas être mêlé à ce qui pourrait lui arriver de fâcheux en dehors de moi. Évidemment, elle risquait moins que moi. Et s'il lui arrivait quelque chose, comment me le ferait-elle savoir? Aucun moyen ne me paraissait assez sûr. Et si, dans son affolement, elle se servait d'un moyen que je lui avais défendu, rien ne me causait une plus grande frayeur que cette éventualité. Je ne pouvais tout de même pas lui faire continuellement la leçon. J'étais ainsi partagé sans cesse entre le désir de paraître lui faire confiance et celui de lui refaire continuellement les mêmes recommandations. Mais le plus pénible pour moi était de voir qu'elle considérait ma sécurité avec respect comme une chose plus importante même que notre amour. Cela me faisait une peine affreuse. Elle s'enfroissait. Évidemment, si j'étais pris, il n'y avait plus d'amour. Il était donc naturel que ma sécurité eût à ses yeux une si grande importance. Aussi, parfois, je me laissais aller. Je ne prenais plus aucune précaution. Je disais « Aimons-nous à la grâce de Dieu ». Elle m'annonça un jour qu'elle avait rencontré quelqu'un qui aurait pu lui dire justement ce que je désirais tant savoir au sujet de mon bulletin de recherche, mais qu'elle m'avait obéi et qu'elle ne lui avait rien demandé. Je lui dis qu'elle avait très bien fait. Mais je n'en éprouvais pas moins une grande tristesse à la pensée que nous en étions arrivés là et que la jeune fille que j'aimais, je l'avais amenée à force de recommandations à trembler si naïvement pour moi. Et plus le temps passait, plus j'étais inquiet.